Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Ce mois-ci, nous allons vous parler d'un sport que nous avons tous pratiqué dans les cours de récréation, avec plus ou moins de talent, le ping-pong. Et nous allons voir ensemble que la petite balle blanche va avoir en plein cœur de la guerre froide un rôle clé dans les relations entre la Chine et les États-Unis. L'année 1971 sera celle de la diplomatie du ping-pong. Une fois n'est pas coutume, le sport se mêle de l'histoire avec un grand H. Pour vous raconter tout ça, j'ai autour de moi une équipe de choc. Chloé.
Salut.
Thibaut.
Bonjour Sarah.
Olivier.
Bonjour.
Younes.
Bonjour, bonsoir.
Et pour mieux cerner le sujet, je vous propose un court extrait de l'émission 28 minutes d'Arte.
C'est une petite balle blanche qui va changer la face du monde. Depuis 1949, entre la Chine communiste et l'Amérique capitaliste, il n'y a plus aucun contact. Mais en 71, les 31e championnats du monde de tennis de table vont permettre le dégel. Les autorités chinoises invitent les pongistes américains pour une série de matchs amicaux.
La raison pour laquelle nous allons en Chine n'a rien à voir avec la politique. Nous allons dans un esprit friendly. Competition and table tennis activity.
Baptisée Amitié, la rencontre n'a pas grand intérêt côté raquette tant la formation chinoise domine. En revanche, côté diplomatie, le ping-pong va ouvrir un renouveau dans les relations sino-américaines. Moins de trois mois plus tard, Henry Kissinger se rend à Pékin pour préparer une rencontre sommet. Au début de l'année 72, encore impensable quelques mois plus tôt, Richard Nixon est accueilli sur le sol chinois au son de l'hymne américain, interprété par l'Armée populaire de libération.
Alors, cet extrait brosse très bien les contours du sujet du jour.
Ça y est, il a tout dit, hein. on peut rentrer chez nous.
Hein. Merci à tous et à bientôt.
Justement, nous allons tout vous raconter, tous les secrets de cette diplomatie du ping-pong. Et pour bien commencer, on va être obligé de faire un peu d'histoire, je crois. Mais avant ça, une question qui me brûle les lèvres. Et vous, vous êtes fort au ping-pong ? Younes ?
Moi, je suis bon, mais non, pas assez. Pas assez pour me prétendre fort au ping-pong.
Très bien. Olivier ?
Moi, j'étais meilleur au baby-foot. Baby-foot, je prends pas mal de personnes ici présentes. Ah, ping-pong, moi, je suis fort à la tournante. Au ping-pong.
D'accord.
Voilà, parce que je sais pas, j'ai de la.
Moi, j'adorais les tournantes au collège et au lycée, ouais. C'était trop bien.
Bah ouais, bon.
Au ping-pong.
Ouais, bon, si, le ping-pong, ça allait.
Et vas-y, Thibaut.
Et ben moi, je suis super chaud au ping-pong. Non, j'ai toujours été très fort, comme tout le monde, jusqu'à comprendre qu'en fait, j'étais assez nul, comme tout le monde aussi. Mais c'est toujours comme ça, ce ping-pong. On croit qu'on est très, très fort, et puis on affronte un jour un mec qui nous défonce, et on est plus fort, en fait.
On s'aperçoit que c'est un sport.
Exactement.
Ce jour-là, oui.
Et toi, Chloé ?
Ah, moi, le ping-pong, ça me met face à toutes mes incertitudes. C'est terrible. Je vois ça, ces petites raquettes, ces petites balles. J'arrive pas à gagner. Ça m'énerve.
C'est vrai que ça a l'air d'être un jeu d'enfant.
Oui, oui.
C'est vrai que ça rappelle tellement les heures de perme, entre deux cours, etc. C'est incroyable.
C'est vraiment le ping-pong, pour moi, c'est vraiment le lycée. Et à l'époque, je me trouvais pas mauvaise. Et je suis d'accord avec ce qui avait été dit. Genre, t'as l'impression que t'es bon. Et puis un jour, en fait, tu découvres que t'es hyper nulot. C'est qu'en plus, t'as pas du tout les bons gestes techniques.
Alors, je dois vous l'avouer aussi. Ça m'a fait pareil pour le baby-foot.
Et moi, je joue globalement au ping-pong comme je joue au tennis, avec des très grands gestes. Mais franchement, ça fonctionne plutôt pas mal.
Moi, au ping-pong, j'ai le même problème qu'au tennis. C'est-à-dire, je veux faire le coup, je sais très bien qu'il faut le mettre là, à droite, et ça tombe en dehors, en général, du terrain, une fois sur deux, ou de la table.
Et oui. Bon, allez, c'est parti pour un peu d'histoire des relations sino-américaines. Alors, malheureusement, on n'a pas d'expert culture 2000 autour de la table. Ça me fait un peu peur.
Mais c'est pas grave.
Mais on va très bien s'en sortir. Alors, les enfants, c'est quoi les bails ? Si j'ai bien compris, la relation entre la Chine et les États-Unis, c'est un peu compliqué.
Oui, non, c'est top. Alors, c'est ce kiff.
Il y a un mot pour décrire cette relation, c'est un mot très glamour, vous allez voir, c'est complexité.
Complexité.
Ok, en gros, ça a toujours été les montagnes russes des sentiments entre la Chine et les Américains. Enfin, quand je dis sentiments, c'est un grand mot parce que ce qui compte, de toute façon, c'est le commerce. Et ça, au départ, ça marchait bien. C'est comme ça que les deux puissances se sont rapprochées. L'un exportait plutôt de la fourrure, de la monnaie, pendant que l'autre exportait du thé ou de la soie, ce qui faisait que les marchands...
Lequel faisait lequel, Olivier ?
Je vous laisse deviner. Allez, hop là. Donc,
il est fort.
Et bah non, mais évidemment que les États-Unis exportaient
de la
thé,
fourrure,
la soie, la coton.
et la Chine du thé, de la soie et du coton. Ah, Olivier, tu perds déjà tout le monde.
Oui, pardon, excusez-moi.
Elle est loin l'agrégation d'histoire d'Olivier.
Et donc, bah du coup, nous avions ces deux blocs qui marchaient plutôt bien, main dans la main.
Il y avait des relations commerciales.
Les
quoi.
Marchands étaient pétés de thunes. Tout ça s'est fait plus ou moins bien, avec plus ou moins aussi de conflits, notamment, on va pas en parler, ce serait beaucoup trop long. Et surtout, nous ne sommes pas culture 2000. Mmh. Il y a un point premièrement important, ça s'est passé entre 37 et 45, c'est la guerre sino-japonaise.
Ah, ouais. Thibaut, alors, tu connais bien cette
bah déjà, j'adore les chiens, donc j'ai toujours aimé les guerres sino-japonaises. bon, non, je m'étais dit de pas la faire, c'est toujours comme ça, au final, voilà, je suis poussé par l'enjeu. Oui, la guerre sino-japonaise, c'est une guerre entre les Chinois et les Japonais qui a lieu entre 37 et 45. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'à l'époque, il y a deux Chines, en fait. Il y a une Chine nationaliste, qui est tenue par un général qui s'appelle Chiang Kai-shek.
Le généralissime, on l'appelle.
Le généralissime, exactement. Et il y a une Chine communiste, qui est tenue par Mao, après 1949. Et cette Chine communiste perdurera, ce sera la Chine majoritaire, tandis que la Chine de Chiang Kai-shek.
Celle de la fameuse Taïwan, révolution en fait, culturelle.
Oui, exactement. Et donc, entre 37 et 45, on va avoir une sorte de petite alliance en fait, entre ces deux Chines contre les Japons. Et
Contre les Japons. le Japon du Sud, le Japon du Nord.
C'est un archipel, hein, du coup.
Les Japonais avaient fait une enclave, en fait, ils avaient occupé la Mandchourie, oui, donc la partie actuelle de.
Et ils avaient encore envie de s'agrandir, ce qui faisait que ça foutait
et
la merde.
Ils avaient surtout une envie expansionniste incroyable.
Et les États-Unis étaient plutôt avec la République nationale chinoise. Exactement. On va voir d'ailleurs qu'ils sont avec la République nationale et non pas avec la République populaire de Chine par Mao. Là, il n'y avait pas encore Mao à l'époque. Et par contre, il y a un truc qui s'est passé, c'est que en se rendant en Chine, ils se rendent compte que mine de rien, la République populaire de Chine, il y a des choses à faire, il y a une énergie, et donc ils développent une mission qu'on appelle la mission Dixie, qui va être mise en place pour tenter de se questionner sur un rapprochement entre les Américains et les Chinois. Donc on se dit,
petite parenthèse,
pourquoi
pas.
Mini parenthèse, il faut pas oublier que juste avant, la Chine était une colonie britannique.
Oui.
Sur bien des comptoirs. Et effectivement.
Ça change bien les colonies, attends.
Ah oui.
le bon vieux temps des colonies.
Ah, Michel.
Alors, on vous cache rien, entre 39 et 45, c'est un peu le dawa dans le monde. Hein. Ouais, voilà, on revient pas là-dessus. Et en 45, les Japonais font partie du camp des perdants. Donc ils se retirent de la Chine, mais il y a quand même pas mal de
on
les force un peu, hein, oui. Mais bon, il y a quand même encore pas mal de trucs à régler et les Américains vont essayer d'un peu ingérer là-dedans parce que comme vous l'avez dit, ils sont plutôt pour la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek et ils veulent éviter à tout prix l'arrivée au pouvoir des communistes. Mais à ce qui paraît, ça va pas marcher.
Et non, ça va pas marcher. Il y a un nouvel attaquant titulaire en pointe en République populaire de Chine. Il s'appelle Mao et il est pas là pour traire des vaches. Mao, il est là.
Que se passe-t-il?
Mao, il est là pour porter haut l'image de la République populaire de Chine et l'image du communisme. Donc, il va couper toute relation avec les États-Unis, considéré comme le grand méchant impérialiste américain.
Sacré Mao.
Et surtout, il va gagner. Enfin, il va prendre le pouvoir en Chine en 49.
Et voilà. Et surtout, tout à fait. Chiang Kai-shek et sa Chine nationaliste vont devoir, rester basés en fait à Taipei, à Taïwan. Et ce qui va se passer, ce qui va ne rien arranger entre les États-Unis et la Chine, c'est que les États-Unis vont reconnaître la Chine de Chiang Kai-shek et non pas la Chine, la République populaire
de
Chine.
Ce qui va refroidir nettement les relations entre les deux pays.
C'est jamais très bon.
C'est pas bon. Là.
Ça, plus concrètement, le McCarthyisme aux États-Unis où le sénateur McCarthy tape surtout le communisme et ne veut plus surtout entendre parler des communistes à travers le monde. C'est la chasse aux sorcières.
Un sénateur qui se fait une mission de chasser chaque influence communiste au sein même des États-Unis.
Ce qui fait que la mission Dixie, dont on a parlé tout à l'heure, va être annulée. La guerre de Corée.
Oui, et la guerre de Corée, c'est là pour la. Enfin, on va vraiment avoir un affrontement armé, en fait, entre la Chine et les États-Unis, puisque les États-Unis vont soutenir la Corée du Sud et vont même emmener des hommes, notamment de l'état-major, etc., pour essayer de guider un peu l'armée de Corée du Sud. Et la Chine va soutenir la Corée du Nord. Donc, globalement.
Moi, je préfère la Corée de Kamel Wally.
Ok, Olivier.
D'accord, donc on a officiellement le droit à tous les jeux de mots. Parce que quand Olivier a parlé de Mao, moi je me suis dit Mao voit rouge en fin de match, attaquant titulaire, tout ça. Enfin, je pouvais en faire des tonnes, mais on a le droit. C'est très bien.
On a tous les droits.
Les vannes sont ouvertes.
Donc on entre dans la période dure, en fait, hein, là, dans les années 50 de la guerre froide. Ouais. Et la Chine, donc elle, son copain au début, hein, c'est l'URSS. Si mes cours de lycée sont bons, hein, parce que oui. C'est marrant, parce que le ping-pong et la guerre froide, les deux sont très associés aux années. Année de lycée. non mais c'est vrai. Et par exemple, ben en Chine, on va même pas parler du fait que les Américains ont mis le pied sur la Lune. Ça va être propagande anti-américaine. On va cacher tout ça.
Oui. Il va y avoir un déni organisé autour, déjà premièrement de l'influence des Russes, mais surtout au fait de toute la partie un peu propagande en fait. Donc c'est une propagande bien organisée pour essayer d'empêcher que toutes les informations puissent.
On parle d'organiser. Ouais.
Donc globalement, on peut dire qu'il n'y a plus aucune relation diplomatique entre les deux pays dans les années 50 et 60. Et pourtant, un événement va venir un peu bousculer tout ça dans l'échiquier politique. Qu'est-ce qui va se passer dans les années 60?
La bamboche. Ah non, pas du tout.
Non, la bamboche, c'est terminé.
C'est terminé. Et depuis bien longtemps.
Non, mais c'est quelque chose qu'on connaît tous une fois dans notre vie, c'est une rupture. Voilà. Exactement. Une rupture. Ça fait mal, c'est dur, mais bon, la rupture sino-soviétique qui trouve son apogée en 1969, il était peut-être temps que ça arrive aussi.
Et oui, l'allié qui devient à un moment donné un peu trop présent.
Et donc ça, c'est notamment dû à pas mal de conflits armés entre les deux pays qui vont se battre pour une île, dont on va reparler peut-être un petit peu plus tard.
Oui.
Oh, mais quelle île!
Belle île en mer.
La Corse.
L'île de la tentation.
Non, mais, par exemple, pour donner un exemple, hein, l'URSS, elle n'aime pas trop les velléités trop belliqueuses, expansionnistes, etc. de la Chine. La Chine, elle voudrait bien la bombe nucléaire, on refuse de lui donner. Bon, elle va quand même réussir, elle va faire exploser sa première bombe en 64.
C'est Mao hein, qui veut redonner une autonomie complète aux Chinois,
exactement.
En fait. Ne plus être vassal d'une influence extérieure.
Et donc, à ce moment-là, déjà, hein, Pékin va se dire, bon, avec l'URSS, c'est chaud, peut-être quand même qu'on peut aller un peu voir ce qui se passe du côté des États-Unis. Il y a une toute petite reprise des contacts déjà à ce moment-là avec les États-Unis, mais ce sera assez discret. Et donc, la rupture avec les Russes va en fait obliger la Chine à s'ouvrir au monde sous l'impulsion donc, de Mao Zedong, et notamment, qui est le premier pays occidental à reconnaître la République
populaire de Chine. Cocorico ! C'est la France du général de Gaulle.
Eh oui, la France du général, mon ami.
Mais qui
oui.
nous aurait pas laissé aux mains d'Amazon. C'est faux.
Et après, il y avait une double stratégie, c'est que de Gaulle voyait bien la Chine s'intégrer dans l'ONU. Et la
tenter
Chine...
de s'intégrer.
Oui, la Chine s'y voyait bien aussi. En fait.
Car la République populaire de Chine, à ce moment-là, n'est pas reconnue.
Non,
par
pas du tout. Ouais.
Voilà, donc ça, c'est très important de le dire.
Il voyait bien ce projet se faire pour avoir une voix supplémentaire et donc, effectivement, peser dans l'échiquier.
Oui, voilà, tout à fait.
Et du côté de Nixon, un petit mot. Enfin, lui.
Un petit mot sur lui, tu veux dire ou
oui, alors, faut savoir.
C'était plutôt un bel homme, 1m80, 82.
Alors, faut savoir que dans la ribambelle de président américain qu'il y a eu, la Nixon, ribambelle, j'aime beaucoup ce mot.
Ribambelle.
On a besoin de pause dans nos cœurs et dans nos têtes. Et du coup, Nixon, c'était pas celui qu'on attendait le plus sur cette histoire-là, parce qu'en 52, quand il se présentait à la vice-présidence, il était plutôt anti-coco.
Oui, bah, il est très anti-communiste, mais il est aussi pragmatique, hein, tout simplement, et il dit que potentiellement se rapprocher de la Chine contre l'URSS. Bon,
après,
ça peut plutôt bien marcher.
Il est anticommuniste comme le sont 98% des Américains. Hein, donc,
un comédien, je vous dis.
En plus, on n'en a pas parlé, mais tout ça sous fond de guerre du Vietnam, où globalement, Nixon, il n'a pas trop besoin d'ennemis en plus. Et donc, tout doucement, on se rapproche peut-être d'une possibilité d'une reprise des relations entre les deux pays. Et peut-être même que la petite balle blanche va apporter un petit coup de pouce à tout ça. Mais avant, je crois que... Avant de parler du ping-pong en soi, je crois que c'est important de rappeler, de redire quelques mots sur pourquoi le sport a souvent été finalement un outil de propagande, un outil diplomatique. Enfin, et ça, j'aime bien, et je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que
qu'on
fait avec EPO, c'est trop intéressant.
C'est vachement bien. Et ben, il faut citer Eric Denning et Norbert Elias, qui sont deux sociologues pardonnez-moi, qui ont eu cette phrase qui est plutôt juste. Les JO permettent aux représentants des différentes nations de s'affronter sans s'entretuer. C'est exactement ça. C'est un concours de bites un peu caché.
Oh, voyons.
Mais c'est complètement
une
ça.
Une démonstration de force. force.
Olivier, je t'ai déjà dit, ce n'est pas la taille qui compte.
Bah heureusement. Et donc, avec surtout un traitement par rapport au sport complètement différent selon quelle nation on est. Par exemple, aux États-Unis, on a vraiment ce traitement dans un sport, une pratique beaucoup plus individuelle, avec cette quête de performance, d'exploit. On a aussi l'idée du résultat quelque part et l'idée du spectacle dès les facs, dès les universités.
Alors, le show est très important.
Le show est assuré.
Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ, du côté communiste, on va pas trop avoir cette vision-là. Ils vont quand même assez vite changer d'avis. Mais au début, dans le bloc communiste, c'est plutôt la culture physique, populaire, l'homme nouveau.
L'effort collectif, exactement. C'est pour l'amour de la patrie, c'est le vivre ensemble.
Un désintéressement qui n'est qu'une image, parce qu'en définitive, ils étaient plutôt professionnalisés, puisque un sportif amateur restait amateur, mais évidemment, il était complètement financé par le régime, et pour se consacrer entièrement à son sport.
En fait, on en a déjà parlé. D'ailleurs, on vous invite à voir, à écouter les 3 épisodes sur la guerre froide qu'on a fait avec Johan de Culture des Villes, qui était là.
Oui, je sais pas pourquoi tu me montes du doigt. Mais alors que pas du tout.
Mais parce que tu sais pas, tu m'as fait penser à Johan.
Ah bah c'est les.
Voilà, je sais pas, c'est le regard peut-être.
C'est le.
En compliment, Johan est une très belle personne.
Ah oui, c'est un bel âtre.
Non mais en URSS, c'est la fameuse physcultura, c'est-à-dire qu'on développe une bonne hygiène, un homme fort. On développe aussi la force ouvrière, militaire, policière, oui, grâce au sport.
Un corps sain dans un esprit sain.
Bah c'est exactement
c'est
ça.
En fait.
On en fait un outil de glorification interne. Et ça va vite changer. Plutôt très rapidement, ça va changer parce qu'on va se rendre compte que le théâtre du sport peut donner lieu au théâtre de notre
idéologie. Bien sûr.
Et oui, on va voir par exemple, notamment avec l'URSS, où ça va être rechercher la gloire, battre les Américains dans le sport, lors des JO, ça va devenir quelque chose d'extrêmement important. Et on va avoir des rencontres sportives marquantes dont on a parlé notamment.
Le fameux miracle sur glace.
Glace en 80, mais surtout pour la victoire URSS, la finale de basket en 72.
En 72, ouais, tout à fait.
Tout ça de temps en temps saupoudré d'un peu de dopage, mais bon.
Sarah, tu ne peux pas dire ce genre de choses.
Jamais.
Et la Chine va s'engouffrer un petit peu là-dedans et va.
Exactement. La Chine va s'engouffrer là-dedans et je vous propose d'écouter un petit extrait qui raconte un peu le sport sous la Chine communiste.
Les jeux de ballon, la natation, la gymnastique, la course, ainsi que la traditionnelle boxe chinoise prirent de l'ampleur à travers tout le pays. Ouvriers, paysans, étudiants, soldats comprirent alors le message de Mao Tse-tung. Pour améliorer la production industrielle et agricole et pour contribuer avec ardeur à l'édification du socialisme dans le pays, il était indispensable d'être en bonne condition physique. Avant de se mettre à courir ou à taper dans un ballon, il s'agissait de réfléchir, de bien comprendre les raisons pour lesquelles on devait le faire. En fait, de discerner l'importance de l'exercice physique sur le plan idéologique et politique. La notion de sport de masse se précisait alors. Des manifestations regroupant plusieurs milliers d'athlètes étaient organisées à travers le pays.
Alors, Mao, il aimait bien ça, le sport.
Ah, oui, les chansons aussi, il aimait bien ça.
On c'est y allait chante, hein, derrière.
Oui, on y allait gaiement, et en fait, on y allait en groupe. Et puis, c'était l'idée de le faire.
Bah, Younes nous raconte sa jeunesse.
Voilà. C'était l'idée de le faire.
Woodstock.
Exactement.
C'était initié par un ancien.
C'était l'idée de le faire au lever du soleil, et voilà, à la fraîche. Hein, Eh oui, eh bien on s'exerçait au kung-fu. Et puis après, on a commencé petit à petit à s'intéresser à des sports de ballon. Et voilà, au fur et à mesure, ça a été tout un mouvement populaire.
Mais tu parles du coup de ton stage ou de la Chine?
Ah oui, c'était mon stage. Non, je parlais pas du tout de la Chine.
Non, mais en tout cas.
On peut citer Mao d'ailleurs.
Mais oui, cite Mao.
Citons Mao.
Mao qui disait: la Chine était considérée naguère comme un empire décrépit, faible au jeu de ballon, en natation. Mais après 6 années de travail, nous avons transformé la face de notre pays. En fait, il comprend que le sport est un instrument de puissance.
Exactement, comme l'URSS avant lui. Et dans quel sport ils vont se faire remarquer, les Chinois?
La pétanque.
C'est vrai qu'ils sont très forts.
Champion du monde à Marseille en 71. Ah, ouais.
Mais c'était des beaux championnats, je me rappelle, la vie avait frémi là.
Ah, mais, oh là là, Thierry, quand il rate là, quand il pointe là, c'est terrible. Ah, quelle dramaturgie.
Mais sinon, un sport qui est aujourd'hui pas mal dominé par les États-Unis en plus, c'est la gymnastique.
Ouais, et à l'époque, et bien sûr, les Chinois vont pas mal percer là-dedans. Et un autre sport.
Bah, alors, on dit le ping-pong tout de suite ou on essaie d'en trouver un.
C'est quoi ce suspense? C'est quoi ce suspense inutile?
Le tir à l'arc, le curling.
Non, évidemment, juste après la gymnastique, qui est un dérivé finalement des jeux du cirque, c'est le ping-pong. Et le ping-pong, c'était aussi une façon d'éduquer les masses.
Oh. Ouais,
ouais. Jeanne notamment. D'ailleurs le premier titre de champion du monde tout sport confondu de la Chine, il a été obtenu grâce au ping-pong et au pongiste Rong Guotan.
C'est Guotan.
Guotan.
Merci
Guotan. Ouais, très bien. Voilà, en 59. Voilà.
Exactement. Et moi j'ai appris qu'on disait pongiste pour un joueur de ping-pong, j'avoue que je ne le savais pas.
Oui.
Bon, donc
c'est vrai, c'est tout aussi ridicule que ping-pong ou que tennis de table, il y a un peu éponge dans pongiste. Enfin, rien ne va dans ces noms de sport. là, on a perdu 12 ouais. auditeurs.
Thibaut, tu me tends une perche, donc c'est enfin l'heure de parler de ce fameux ping-pong ou devrait-on dire tennis de table.
Alors moi, je préfère dire ping-pong.
Eh bien, écoutez,
moi aussi.
Je vous propose qu'on en discute juste après. Avant ça, je vous propose d'écouter... Un expert en la matière.
Un expert.
Hey, Gump, tu sais jouer à ça? Eh bien, je vais te montrer. Tiens. Et le secret de ce jeu, le voilà. Peu importe ce qui se passe, jamais, jamais, tu ne quittes la balle des yeux. Bon. Je sais pas pourquoi, mais le ping-pong m'est venu naturellement. Tu vois, n'importe quel idiot peut jouer. Et je me suis mis à jouer tout le temps. Je jouais au ping-pong même quand j'avais personne avec qui jouer. Les gens de l'hôpital disaient que j'étais comme un coq en pâte. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Même le lieutenant Dan venait me voir jouer. Je jouais tellement au ping-pong que j'y jouais même en dormant.
Et vous avez reconnu un extrait du film
Le Seigneur des Anneaux.
J'allais dire la voix de François Hollande, mais en fait non.
J'adore ce passage.
Allez, parlez-moi un peu de ce fameux tennis de table.
Et oui, en fait, le ping-pong dans Forrest Gump et donc le tennis de table, oui, c'est la rencontre et la meilleure façon de participer aux Jeux Olympiques pour certains.
C'est un sport de raquette.
Alors, c'est quoi la différence entre ping-pong et tennis de table alors?
Aucune.
Non, alors aujourd'hui, on utilise un peu plus le terme tennis de table pour la compétition professionnelle et on va laisser le ping-pong au loisir. Mais le nom officiel, c'est tennis de table. Et oui, ping-pong, si j'ai bien compris, ça a été utilisé par une boîte américaine qui a commercialisé des raquettes, des balles de ping-pong, etc. Et ça fait référence au son de la balle.
Oui, il y a eu un dépôt légal qui, effectivement, s'inspire de l'onomatopée que la balle fait sur la raquette et sur la table.
Et voilà. Apparemment, moi, j'ai lu qu'à un moment, on disait pim-pam en France, aux États-Unis. Ça m'a fait marquer.
C'est vraiment très, très naze.
Tout le monde se fout de ce sport.
C'est ce que j'allais dire déjà, que ce sport avait un problème.
Mais ça n'a rien à voir. Tic-tac. Tu joues à quoi? Moi, je suis champion du monde de tic-tac.
Mais en même temps, tennis de table, c'est un côté
réducteur,
pompeux, débile. Enfin, je fais du tennis, mais sur une table.
Bah, miniature.
C'est terrible.
Ouais. Alors, il y a une légende autour de cette création.
Exactement. C'est une origine. Et c'est quoi? Ça porte bien son nom par rapport à cette histoire.
Voilà, c'est une petite bande de British autour d'une table qui, pour décrire un match de tennis, s'organise avec des bouchons de champagne.
C'est chic. Et toujours. Ça n'aurait pas pu marcher avec d'autres bouchons.
Non,
de toute manière.
C'est les Anglais. Hein. Des bouchons de champagne et des livres pour pouvoir simuler entre guillemets une situation d'un grand terrain. Et ils jouèrent donc à ce mini tennis qu'ils appelèrent tennis de table.
Ouais, ça se trouve, ils faisaient juste un caps, c'est comme ça que c'est né.
Mais attends, les livres, ils font quoi? Ils les jettent?
Non, c'est les
raquettes, ils les tiennent à la main.
Ouais.
Ah, ils ont du champagne, mais rien de plus pratique.
Balancer les livres.
Non, mais juste, ils ont des bouteilles de champagne, ils ont rien de plus pratique que
Chloé,
des livres.
Chloé, sache que je ne crois pas à cette histoire.
Oui. D'accord.
Je ne fais que la relater.
Le fin mot de cette histoire, je ne vais pas aller bien.
Donc voilà, visiblement, c'est l'origine, et comme par hasard, les Anglais ont tout inventé.
Mais Younes ne croit jamais aux histoires officielles.
Surtout des Anglais.
surtout venant de la part des Anglais.
Après, il en a vu 90%, hein, donc en vrai, je vais dire.
Il était, donc c'est un témoin privilégié.
C'est vrai.
Et je faisais le service.
Ça, c'est à la fin du 19e. Le ping-pong va doucement se professionnaliser. Et qui, enfin, au début, qui domine, c'est qui domine?
C'est qui domine?
C'est qui domine au départ?
Principalement des pays d'Europe de l'Est, ouais. Qui sont les meilleurs, notamment la Hongrie, avec quelqu'un qui s'appelle Viktor Barna, Miklos Zabados aussi. Ensuite, les Japonais.
Dans les années 50.
Ouais. Très forts dans les années 50 et qui sont plusieurs fois champions du monde par équipe à la fin des années 50, 6 fois de suite. Ensuite, les Chinois vont devenir la nation majoritaire
dans les années 60. Et surtout, ça, globalement, moi je trouve que les chiffres sont fous, on va un peu les donner, mais et ça ne va jamais s'arrêter.
Oui, une domination qui commence et qui
sans
ne s'arrête sans partage et qui ne s'arrête jamais.
Oui, entre 61 et 65, par exemple, il y a trois finales de championnat du monde et c'est trois fois un Chinois qui remporte la finale contre un autre Chinois. Donc, c'est dire c'est un petit peu la domination.
Et, voilà. Pensé aux Espagnols à Roland-Garros.
Et pareil pour les doubles.
J'ai fait des calculs savants.
Ah, c'est pas vrai.
Oui, depuis 1961, il y a eu 29 championnats du monde de ping-pong et par équipe, 21 fois. Sur 29, ce sont les Chinois qui ont gagné. Et sinon, il y a eu la Suède 5 fois, le Japon 2 fois et la Hongrie 1 fois. En plus, je crois qu'il y en a 2 ou 3 à laquelle la Chine ne participe pas. Donc,
c'est une domination écrasante.
En fait, ils ne gagnent pas quand ils boycottent.
Oui, quand ils ne sont pas là parce qu'ils n'envoient pas de sportifs à l'étranger.
Mais en même temps, ils sont bien motivés par Mao aussi qui leur dit « Considérez la balle comme la tête de votre ennemi capitaliste. Tapez dedans avec votre raquette socialiste et vous aurez un point pour les mères patries. »
Pour les mères patries.
Il y en a plein.
Comme au Japon.
Le Japon Nord, le Japon Sud, c'est la même chose.
Et en France on n'est pas fou, hein, juste pour parler de la France, on a Jean-Philippe Toujours. Cassien en 93, Marseille gagne la Ligue des Champions. Et Jacques Sécrétin aussi, comment ?
Pardon ?
Jacques Sécrétin qui en 77 remporte le double mixte avec Claude Bergeret. Donc voilà, par ça, pas grand chose à se mettre sous le coin de la dent.
Bon, alors revenons doucement à nos petits moutons et au championnat du monde de 1971. Championnat du monde, pas de foot, hein, de ping-pong. On reste sur le ping-pong, on reste focus.
Ça se passe à Nagoya.
Alors, Nagoya, a priori, au Japon.
Le championnat du monde de ping-pong dans le monde est un peu moins suivi que la Coupe du monde de foot.
Je te trouve dur. Ça
se joue à rien, mais c'est vrai.
Franchement, moi,
ça
je choisis entre les deux, je prends le ping-pong.
Oui, ça m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonnera pas les auditeurs.
Alors, entre parenthèses, je tiens à dire que c'est quand même spectaculaire à regarder à la télévision.
Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est très impressionnant. Et quand on voit justement Forrest Gump, on a vu l'extrait de Forrest Gump.
On l'a pas vu, personne l'a vu. Hein.
On l'a vu dans notre tête, on l'a bien imaginé car l'extrait était très très bien.
Mais Olivier vous mettra l'extrait sur Twitter.
Oui, et c'est exactement ça. Enfin, c'est très impressionnant. Et parfois, ils sont vraiment à 4 mètres de la table derrière pour récupérer une balle. Enfin, c'est vraiment.
Ils frappent comme des mules et puis la balle part.
Non, mais c'est génial. Il y a un côté Nadal sur terre battue. Quoi. D'ailleurs, on devrait mettre de la terre battue sur les tables,
sur les tables
et du gazon
et agrandir la table.
Ça serait bien.
Donc, en tout cas, championnat du monde de tennis de table. Oui. Globalement, c'est tous les 2 ans depuis 1957. T'as le simple double messieurs, le simple double dames, le double mixte et la compétition par équipe. Au début des années 70, on l'a un peu dit, hein, globalement, c'est la Chine qui domine, puisqu'elle a gagné en 61, 63, 65 et qu'elle n'a pas participé en 67 et 69, ce qui a permis de laisser une petite place au Japon. Exactement. Est-ce qu'on peut dire peut-être 2 mots, même si en fait ce qui va nous intéresser, c'est pas tant les résultats sportifs de cette compétition, mais quand même, qui va gagner cette compétition?
Qui va gagner? C'est facile, c'est un Suédois, figurez-vous. C'est le Suédois Stellan Bengtsson, probablement le fils de Bengt, du coup, qui l'emporte contre le Japonais Shigeo Ito. Voilà, donc quand même, donc pas de Chinois pour le simple messieurs. Voilà.
Et par équipe, c'est la Chine contre le Japon.
Exactement.
Qui se hisse donc au sommet.
Et chez les dames, c'est une finale 100% chinoise.
Donc les Chinois, de fait.
Exactement. Mais donc, comme je le disais, ce ne sont pas ces résultats sportifs qui vont marquer les esprits.
Certainement pas.
Et l'histoire des relations sino-soviétiques lors de cette compétition.
Américaine.
C'est sino-américaine, exactement, tout à fait. Oh, il a raison, et tu suis, Younes, c'était pour vérifier.
Fais gaffe à la WC, Younes.
Et c'est le seul qui suit, donc c'est le seul qui sera là la semaine prochaine. Ce qui va marquer les esprits, c'est une rencontre a priori fortuite entre 2 joueurs de ping-pong. On vous en dit un peu plus juste après la pause musicale.
北京都在长安街上，在北京很多漂亮的姑娘，在北京烧香去雍和宫，在北京逛着您家的胡同，在北京去故宫学历史，在北京西单买了一件 T 恤，在北京天安门太大，在北京您不知道了吧，我家在东直门内，他们家在学院路，
我们哪儿都去过，
所以隐藏对北京很熟，
海淀全是学校
和卖电脑的商店，五道口全是外国人和盗版 CD 店，
农区后海
三里广喝一点儿，
哪儿都有卡拉 OK 拱体有些地板，
晚上除了跳舞喝酒聊天还有别的，
第二天起床以后
你绝对还在飞呢，出租车有一块二一块六两个价格，
交通一般还成
但会有点堵车，
真不拥挤饭馆
烤鸭和炸酱面，
鬼街吃火锅太多选择，我的天，早起来去香山
感觉到大自然，
别忘了
回来时顺路去颐和园，
北大有个朋友，清华有个妞，
在城府路有轻轨往城市里走，
在北京2008年的奥运会，
在北京
建得越来越美，
在北京有湖也有河，
在北京大多是骑自行车，
在北京
中国的长城，
在北京冬天真是有点冷，
在北京
人民英雄纪念堂，
手机
动物园买衣服，
北京西客站真会使人迷路，从积雪谈到鼓楼安定门广宫，
三元桥卖旧电器五环快要通，
公司有很多条我总是分不清楚，
朝阳区有大使馆
街上都是大叔，建国门往国贸商务中心，
四合院的房子我们住得很近，
北京站有火车
外地人住宿，
长城汽车站的巴士上高速公路，
北海九龙壁，
南昌很多穷人，但是现在还在发展。
如果喜欢知识，
去那历史博物馆。
天安门一直往北，
就是中南海。
隐藏代表了北京，
欢迎大家再来。
在北京，
走在长安街上。
在北京，很多漂亮的姑娘。
在北京，
烧香去雍和宫。
在北京，
逛着您家的胡同。
在北京，去故宫学历史。
西单买了一件 T 恤，
在北京
天安门太大，
在北京
您不知道了吧，
在北京
2008年的奥运会，
在北京
建得越来越美，
在北京
有湖也有河，
在北京
大多都骑自行车，
在北京
中国的长城，
在北京
冬天真的有点冷，
在北京
人民英雄纪念堂，
现在知道了吧，
de nous faire écouter.
C'était Eading, un groupe hip-hop chinois très connu là-bas, enfin plutôt reconnu, et avec notamment un chinois mais aussi un américain, un canadien, donc je me suis dit que ça tombait sous le sens, c'est vraiment le dialogue entre plusieurs pays, voilà.
Magnifique, en tout cas moi j'adore.
Merci. Quel admirable beaucoup. Clin d'œil Olivier. Tu seras réinvité.
Merci Monsieur Foura.
Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes en mars 1971, c'est surtout pour Thibaut que je dis ça, oui. Parce que je sens qu'il est perdu.
Globalement, c'est une tournure de style, on est en 2020 en fait.
D'accord.
Globalement, les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis sont rompues depuis maintenant 20 ans.
Oui.
Et pourtant, un rapprochement va avoir lieu pendant les championnats du monde de ping-pong. Je ne peux pas m'empêcher de le rajouter à chaque fois parce que j'ai peur qu'on oublie. Sous le regard d'un témoin privilégié, le petit Tom Bogan.
Tim.
Racontez-moi tout ça. J'ai dit quoi ? J'ai dit Tom ?
Tom. Tom.
Ah mais pourtant j'ai marqué Tim.
Tu veux l'appeler Tom.
Tu sais, c'est pas comme le ping-pong où on peut dire le chit-chat, le coupable, le Louis Wolf. Là, les gens ont des prénoms.
Hein. Ouais, merci Thibaut de rétablir cette vérité.
Tim Bogan, c'est un délégué de la délégation américaine au championnat du monde à Nagoya. Mm-hmm. Il nous raconte une histoire qui semble pas majeure, mais qui pourtant va l'être. C'est la petite histoire dans la grande histoire politique.
Ah, c'est ça qu'on préfère.
Comme les Kinder.
Donc en fait, j'ai pas compris. C'est le petit Kinder dans le grand Kinder.
La petite surprise qu'il y a quand on mange le chocolat. Okay.
Ah, c'est... Pardon, d'accord. Thibaut, vas-y, raconte-nous la petite histoire dans la grande histoire.
Donc, comme le Kinder.
Il nous raconte qu'il y a un pongiste américain de la délégation américaine. Il s'appelle Glenn Cowan. Qui est le symbole absolu de la culture américaine. Il est cool, il est sympa, il a les cheveux longs, il porte un bandana.
Ah, c'est un look de surfeur.
C'est un look de surfeur.
Ok, boomer.
On la lui fait pas, Younes. Hein. Look de surfeur. Oh,
ça, les autres, là, les surfeurs, là, très peu pour moi. Hein.
Les hippies, tout ça, quoi.
Bah, pourtant, tout à l'heure, enfin bref, peu importe.
Dans deux minutes, Younes switch en verlan pour paraître plus jeune.
Et je dis yo-yo pour vous gêner.
Yo-yo.
Et donc, notre Glenn Cowan, il s'entraîne.
Il s'entraîne dur.
Il s'entraîne dur, on est à Nagoya.
C'est pour ça qu'il s'entraîne dur ?
À Nagoya, on s'entraîne dur, moi je confirme.
Oui. À Nagoya, on s'entraîne très très dur. Il échange quelques balles avec un pongiste chinois. Ce pongiste chinois, c'est pas n'importe qui, c'est Zhuang Zedong.
Oui.
Zhuang Zedong. C'est un des plus grands pongistes chinois du début des années 70.
Donc de tous les temps.
Plusieurs fois champion du monde.
Il ne l'est pas encore à ce moment-là, attention.
Et
Ah si, peut-être qu'il l'est. Peut-être qu'il l'est trois fois.
Alors, est-ce que les informations ont été vérifiées et croisées avec Wikipédia?
Alors, Wikipédia, je ne sais pas, mais Wikipédia me dit que oui. Et ce que j'ai écrit aussi sur mes notes me dit que oui, trois fois de suite.
Très bien.
Notamment
en développant, la fameuse prise dite de porte-plume. Vous savez, ce qu'on n'a pas parlé, il y a plusieurs façons de tenir sa raquette au ping-pong. On la tient par le poignet normalement, comme nous en perme entre deux heures de cours, et on la tient en touchant, en mettant les doigts sur la raquette.
Moi je la porte comme
c'est
ça.
C'est ça la plume.
Comme il y a plusieurs
porte-plume.
Younes la prend avec la bouche.
Comme un porte-plume.
Ça marche très bien.
Comme tu prends une plume. Et c'est pas les Chinois qui ont inventé cette technique.
C'est les mères patries chinoises. C'est les différentes mères patries. Il y en a eu plein, d'accord.
Et ce sont les Hongrois. Hongrois rêvés.
J'ai l'impression que. Quand j'imagine, j'ai l'impression que résultat, t'arrives pas à bien tenir ta raquette, non?
C'est parce que tu t'es rendu compte que t'étais nul et qu'avec cette technique,
j'étais encore plus nul.
En fait, ça leur donne un petit désavantage, notamment la puissance qui est un peu moins présente.
Ouais, c'est vrai.
Et ils comblent par une amplitude de gestes qui permet justement de récupérer cette puissance. Et donc, ils sont peut-être un peu plus prévisibles sur les gestes, mais ça ne les empêche pas d'être les meilleurs.
Donc, globalement,
c'était la petite pause technique ping-pong.
Exactement.
Donc, revenons-en à l'histoire avec un grand H.
Merci.
Non, je crois
Thibaut.
Qu'on est encore dans la petite histoire avec un petit H.
Oui,
non
oui, oui, mais on va vérifier. Olivier va vérifier sur Wikipédia. Est-ce qu'on est sur la petite histoire avec un petit H ou la grande? On ne sait pas.
Olivier.
En tout cas, Zhuang, c'est une superstar.
Zhuang, superstar.
Ok.
Déjà trois fois champion du monde. Et Glenn Cowan, il s'entraîne tard.
Alors attention, je te coupe parce que sur Wikipédia, il écrit c'est la petite histoire avec un petit H.
Alors d'ailleurs, ça nous embête parce qu'on est obligé de tout recommencer. Donc on va reprendre l'histoire.
En mode petite histoire.
Déjà qu'on a perdu tout le monde sur les 20 premières minutes historiques, on va essayer d'aller. Et Glenn Cowan, il se rend compte qu'il est tard, il loupe son bus.
Ah oui.
Pour rentrer à son hôtel, le bus américain, parce que les Américains sont avec les Américains et les Chinois sont avec les Chinois.
Ça me paraît normal.
On ne mélange pas les nationalités. Et là, deux versions de l'histoire. Certains disent qu'il monte par hasard dans le bus chinois sans faire exprès.
Ça, j'y crois pas. J'ai déjà dit, je ne croyais pas à cette version.
Après, le mec devait être complètement à l'ouest. On rappelle que le mec, c'est un hippie qui fume des bédos toute la journée. Le mec est complètement lunaire.
Les sales beatniks. C'est vrai que c'est quand même crédible.
Salut, man, t'as une place pour moi?
Et l'autre version, peut-être la version chinoise, nous dit que Zhuang Zedong lui dit attends. Mec, il n'y a plus de bus. Et ben, monte dans notre super bus chinois.
On te ramène à la maison.
Exactement, on te ramène à la maison. Et évidemment, l'Américain va accepter de monter dans le bus.
Et là, il va se faire enlever par les méchants chinois.
Pour vous montrer comme c'est en soi un événement.
Pardon, mais dans un James Bond, ça se serait passé comme ça. J'arrête, Thibaut, je te laisse finir.
Oui, mais je peux très bien écrire la fin d'histoire que je veux.
D'ailleurs, Wikipédia dit que ça se serait passé comme ça dans un James Bond.
Et d'ailleurs, là, on arrive à l'événement.
Avec un grand E.
Avec un grand E. En revanche, le troisième, enfin, la troisième lettre a un petit E. Hein, notez-le bien. C'est important. Et donc, ce trajet, qui est un trajet pour vous banal de 15 minutes, en fait, il ne l'est pas, à tel point que Zhang Zedong dira ce trajet en bus de 15 minutes, il était tellement important pour nous que j'arrivais pas à lui parler pendant 10 minutes. Avoir un Américain dans mon bus, c'était. Un fait historique avec un grand F, un grand A, un grand I, T, tout ce que vous voulez.
On a l'impression même qu'il se dit je pouvais pas lier quelque chose d'amical, c'était l'ennemi numéro un normalement, c'était presque un peu dangereux.
Un mélange de méfiance et en même temps d'interdit.
Mais oui.
Mais finalement c'est
d'excitation.
Finalement c'est l'excitation qui a primé.
L'excitation a pris le dessus sur la mère patrie.
Non, j'allais te relancer en disant que ça s'était pas si mal passé finalement. Il a mis 4 étoiles et demie, je crois.
Tout à fait.
Après on lui a filé des arlequins, enfin toi des petits bonbons donc.
Ouais, mais il n'y a pas eu de bouteille d'eau, c'est pour ça, la 0,5, ça a sauté.
Et il dira, au bout d'un moment, je me suis dit, ce n'est pas lui qui élabore les politiques nationales, c'est juste un athlète.
Bien joué.
Autant lui adresser la parole.
Il avait tort, parce qu'à l'époque, et c'est ça qu'on va vous dévoiler
merci,
aujourd'hui.
À l'époque, Zhang Zedong était déjà ministre de l'Intérieur.
Et Glenn Cowan dirigeait les États-Unis d'une main de maître.
Et surtout que c'était un robot. Ça, vous ne le saviez pas.
Un cyborg.
Non, mais résultat, ça va être tellement. Enfin, ça va être sympa, ils vont même se faire des petits cadeaux après.
Petit cadeau, et là aussi, pas n'importe quel cadeau. On parle ici d'une broderie de soie représentant les montagnes de Wangshan de la part du pongiste chinois. Notre ami américain, il a pas grand-chose sous la main. Il a pas grand-chose, donc il lui cède un t-shirt barré de la phrase pacifiste inspirée des Beatles, Let It Be.
Bien joué.
Bref, on est vraiment dans la guerre des symboles.
Moi,
aussi,
pour
finalement.
Moi, il y en a un qui a gagné au champ. Je sais pas celui que vous pensez, mais franchement,
tout à fait.
Ton t-shirt de touriste là, c'est bon, garde-le.
Non, en fait, ce geste assez simple et cette anecdote qui est complètement banal, en fait, crée un événement.
Bah c'est ça, c'est le début de l'emballement, en fait.
Et qui c'est qui fait l'événement? Les médias.
Eh bah oui,
bah, évidemment.
On sait bien. On est contrôlé par les médias, de toute manière.
Oui, tout à fait. Sans eux, rien n'existe.
Et donc,
à part les omelettes.
Elle demande...
bah non, justement.
La presse...
la presse s'empare du sujet.
Et bah voilà, bien
joué. Super excitée. Elle demande à Glenn Cowan s'il aimerait visiter la Chine. Bon, lui, il est un peu con. Il répond, ah ouais, moi, tous les pays où je suis pas allé, j'aimerais bien les visiter. Bon, merci, Glenn. Bon, mais on va comprendre dans cette phrase nulle le fait qu'il veut bien aller en Chine et que c'est une main tendue. Génial.
Exactement. Et notre petit ami Mao Zedong, lui, il le comprend bien aussi. Et il va
petit ami. Hein.
Il va s'engouffrer dans la brèche. Il va se dire, bah, franchement, ça peut servir pour pacifier un peu nos relations avec les Américains.
Il fait feu de tout bois.
Exactement. Et il va demander à Zhuang Zedong d'inviter la délégation américaine en Chine. Invitation qui va être acceptée.
Ça, c'est incroyable.
Une des questions, c'est... est-ce que tout ça avait été prémédité ou non? On peut dire qu'il y avait des petites traces qui montraient qu'on avait une envie de se rapprocher, mais ça ne veut pas dire que tout a été construit. Quoi.
Il y avait un mec qui traînait dans le coin, un certain Henry Kissinger, non?
Oui, et puis même avant, il y avait eu un congrès international de ping-pong quelques mois avant, les championnats du monde de Nagoya, et là, le président de la Fédération internationale de tennis de table s'était entretenu avec un dirigeant chinois, avec le Premier ministre, et il lui avait dit que ce serait bien de se servir peut-être du sport et en l'occurrence du ping-pong pour pacifier les relations entre les deux.
C'est vrai ou c'est pas vrai ça, Younes?
Alors moi je préfère croire au hasard. Croire au hasard parce que je suis un romantique finalement.
Bah.
Et effectivement, j'aime imaginer que c'est de la pure gentillesse au départ qui provoque un réchauffement climatique.
Moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il y avait une volonté de rapprochement, que c'était un peu travaillé en arrière, mais peut-être que la rencontre entre les deux sportifs, elle a été le fruit du hasard, d'un beau hasard.
Ah, ça serait tellement beau, mais moi je vais y croire.
Et oui.
Et le fait qu'il y ait plusieurs versions à cette histoire montre en tout cas qu'on a voulu faire de ce récit le point de départ du rapprochement.
Exactement. Et donc les Américains sont invités en Chine. Et donc la délégation va s'y rendre, et pas n'importe quelle délégation, écoutez.
Je croyais que j'allais retourner au Vietnam, mais au lieu de ça, ils ont décidé que le meilleur moyen pour moi de combattre les communistes était de jouer au ping-pong. Alors je suis passé dans les services spéciaux. à voyager à travers le monde pour remonter le moral des infirmes de guerre, montrer comment on joue au ping-pong. J'étais si doué que quelques années plus tard, l'armée décide de me mettre dans l'équipe nationale. Nous fûmes les premiers Américains à visiter la Chine depuis un million d'années ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a dit que la paix mondiale était entre nos mains. Et tout ce que j'ai fait, moi, c'était jouer au ping-pong. En rentrant chez moi, j'étais une célébrité nationale, même beaucoup plus célèbre que Pinocchio.
Et oui, donc Forrest Gump part en Chine avec 15 autres Américains.
Il fait partie de l'équipe nationale.
À toute l'équipe de tournage de Forrest Gump, hein, tout simplement.
C'est tellement marrant. Par contre, Limon, il dit que c'est un million d'années. C'est pas vraiment un million d'années.
Non,
hein.
Non, c'est quoi
49. Depuis 49, on a les, oui, donc les Américains n'ont pas mis le pied
et
en Chine.
Et ça, Ignacy n'y avait pas cru, hein, un million d'années. Il s'était dit qu'il y avait un problème.
Il y avait Anguille sous roche.
Ah bah, clairement Anguille sous roche.
Donc cette délégation, elle part en Chine. Elle part très vite, hein, puisque là, on est en avril 61. Donc vraiment quelques semaines, oui, après les championnats, ouais, du monde à Nagoya au Japon. C'est une délégation américaine très hétérogène, avec tout ce que comprennent les États-Unis. On a une joueuse considérée comme une joueuse de ping-pong très religieuse, très conservatrice. On a des profils de gens estampillés plus de gauche. On a vraiment toute l'Amérique.
Toute l'Amérique.
Non, et c'est toujours le petit Tim Bogan qui va écrire là-dessus et qui va raconter toute cette histoire. Et tout le monde, enfin toute la presse va raconter, c'est vraiment l'événement, même dans la presse américaine, cette petite sortie en Chine quand même.
Oui, en effet, t'as raison, Tim a le droit à une chronique dans le New York Times. C'est pas dégueu. Oui. Le magazine Time titrera China World New Game suite à ce voyage de la délégation américaine en Chine.
On vous montrera la photo sur les réseaux sociaux.
Dès la semaine prochaine. Donc vraiment, c'est un événement pour les médias américains.
Il y a des tournées qui sont organisées, en fait.
Exactement, c'est des rencontres.
J'allais vous demander, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas?
Alors, ils vont jouer au ping-pong.
Oui, logique.
Bon, ce qu'on appelle des rencontres exhibitions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu entre des Américains et des Chinois.
Merci, Sarah. Je n'ai pas osé le faire.
Et parfois, ça fait mal.
Pardon.
Et là aussi, deux versions des faits. On lit parfois que les Chinois ont laissé les États-Unis gagner quelques matchs pour ne, oui, pas être humiliés. C'est-à-dire on s'affronte en 13 matchs.
Pour ne pas humilier l'adversaire.
Pas humilier l'adversaire. Oui. D'autres fois, on lit que les Chinois ont gagné certaines rencontres 13-0. Donc, je ne sais pas trop en quoi en penser. En tout cas, on voit bien que c'est un outil diplomatique. On est là pour exhiber, montrer que les Chinois et les Américains s'entendent bien, qu'ils peuvent montrer que le ping-pong est un instrument politique dans tout le pays, dans toute la Chine.
Ils vont même rencontrer le Premier ministre, hein, Zhou Enlai, qui dira « Vous avez ouvert un nouveau chapitre des relations entre le peuple américain et le peuple chinois. » Donc,
ouais, il les reçoit, voilà, dans le grand palais du peuple. Là, exactement, aussi, c'est un symbole. Il les reçoit vraiment comme des chefs d'État.
Ouais, des ambassadeurs. Ouais. Ouais.
Comme des ambassadeurs, exactement.
Avec des Ferrero Rocher.
Et quelques semaines plus tard, ce sera au tour d'une délégation chinoise d'aller,
oui,
en
alors
Chine.
Ça,
on prend l'appareil.
Ça, oui. Mais ça, on a moins d'infos là-dessus. Ouais. Alors moi, j'ai un peu galéré. J'ai voulu absolument vous montrer ça, vous montrer des images, vous faire écouter des choses. Et on n'a rien là-dessus.
Voilà.
Je
ne
sais pas comment ça s'est passé. Ils sont tous morts, j'en sais rien. Mais
La rencontre dans l'autre sens a moins intéressé, c'est vrai.
Bizarrement.
On en a moins parlé.
Il faut avouer qu'en fait, on a surtout cette histoire sous le regard des États-Unis en fait, et de l'Occident, et que la Chine à l'époque était l'un des pays les plus fermés au monde, et effectivement il y avait ce rapport un peu exceptionnel des choses. Les USA, on découvrait pas grand chose à part peut-être des Chinois qui font les touristes pour la première fois de leur vie, et pour beaucoup, à part les diasporas chinoises,
pas la dernière,
et à part les diasporas chinoises installées dans les différents Chinatown du monde entier, effectivement c'est quand même peu exceptionnel comparé.
On a vraiment un exemple type de l'utilisation du sport comme outil diplomatique.
Oui.
Beaucoup d'analystes le diront plus tard. Pascal Boniface, qui est un politologue qui s'intéresse beaucoup au sport, dira que la voie sportive est souvent utilisée, et ça a été le cas dans cet exemple du ping-pong comme outil diplomatique, parce que ça permet de s'affronter, enfin de
Oui.
De réconcilier des gens, mais aussi de les faire s'affronter sans violence, finalement.
Oui. On range ça dans la catégorie soft power. En fait.
Et puis, il y a un côté diplomatie parallèle, c'est-à-dire que si jamais ça ne fonctionne pas, ça n'engage pas trop les politiques, etc.
Non, il n'y a pas d'enjeu du tout.
Et donc, il y a moins d'enjeux.
On peut toujours le monter en épingle et dire c'est génial, voyez, les deux pays se tendent la main, les deux parties. Et si ça ne marche pas, on dit ça va, c'était du ping-pong, les gens s'en rencontraient. C'est un voyage, une délégation officielle, c'est pas grand-chose.
Exactement.
Personne ne perd la face là-dedans et tout le monde est gagnant. En l'occurrence, ça s'est bien passé.
Exactement.
Donc, ça a été un très grand pas franchi pour l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine.
Ça va vraiment marcher puisque ça va vraiment mettre une grosse machine en route qui va même conduire le président des États-Unis, Nixon, se rendre en personne. Donc d'abord, il y a avant ça, les Américains, l'épongiste américain en Chine, l'épongiste chinois aux États-Unis et ensuite le petit Kissinger qui va un peu œuvrer.
Il va mettre de l'huile dans les rouages.
Exactement.
Ah, on l'adore, notre petit Kiki.
Ah bah ouais.
Heureusement qu'il était là.
Et Kiki est toujours là d'ailleurs, toujours vivant.
Ouais, il a encore, il y a quelques années, publié encore un livre justement sur cette rencontre sino-américaine. Ah, et je pense que ça l'a vraiment, vraiment marqué lui dans sa vie.
Il a été dans plus d'un coup dans l'histoire
récente
des États-Unis.
On ne veut pas savoir sa vie privée.
Lui, il va se rendre en fait en Chine, mais de manière très discrète. Hein. Je crois qu'il va d'abord au Pakistan.
Oui, alors, me permets juste avant, mais qui c'est Kiki finalement
Qui c'est Kiki?
Parce qu'on parle de Kissinger, mais
Chloé, c'est qui?
Henry Kissinger.
Kiki, alors c'était un diplomate américain, donc qui deviendra par la suite secrétaire d'État sous Nixon. Et fatalement, oui, il a beaucoup œuvré à cette époque-là. Donc effectivement, la grosse visite, ce sera en 72, mais tout se passe d'abord en 71, avec deux visites secrètes, justement, de Kissinger. Alors Kissinger, au milieu de tout ça, en fait, pourquoi il est intéressant, c'est qu'il est promoteur de la realpolitik, ce qui est très intéressant. Donc c'est pas du tout un genre musical, parce que ça fait un peu peur, mais en fait, c'est un terme allemand. Et en fait, c'est là où je me suis perdue pendant mes recherches. C'est-à-dire que normalement, on parlait de ping-pong. Moi, j'étais sur les guerres franco-prussiennes, autrichiennes, tout ça. Donc, ça a été un vrai.
Le réel politique de Madrid.
Si on veut, en un mot, en fait, c'est une politique étrangère où qui va être assez pragmatique et qu'on va fonder plutôt sur le calcul des forces et de l'intérêt national et pas que sur un truc où on va être les plus forts. Toi, on veut te buter et toi, truc.
Oui. C'est ça.
On est dans le concret.
C'est analyser le maximum d'options à sa disposition pour toujours aller vers le sens de la paix.
Thibaut, ta définition ?
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, c'est marrant, la realpolitik, c'est un mot allemand, mais Kissinger était allemand.
Et oui, il est né en Allemagne, il est allemand. Il aura le prix Nobel de la... Alors, il me semble...
Il est de Krefeld.
Je crois qu'il aura le prix Nobel de la paix en 73.
T'es en train de spoiler toute ma partie, en fait.
Non, mais je sais pas si on reviendra vraiment dessus, pour la paix, en fait, au Vietnam, il aura un prix Nobel qui sera un peu controversé par ailleurs. En tout cas, donc il va au Pakistan et il va discrètement partir quelques jours en Chine pour préparer l'arrivée de Nixon. Et on peut dire qu'aussi à cette époque, ça va un peu mieux pour la Chine populaire aussi à l'échelle internationale, puisque c'est le 25 octobre 71 que la Chine va enfin entrer à l'ONU. Et c'est notamment grâce au fait que les États-Unis ont dit on ne s'y opposera plus, on ne reconnaîtra pas on ne va pas expulser Taïwan en revanche, mais par contre vous pouvez rentrer tous les deux côte à côte. Donc ça c'est quand même super important.
C'est un premier pas vers une paix affichée en tout cas.
Exactement.
Et surtout, un premier pas vers Nixon, quoi.
Exactement.
Nixon qui débarque.
Et c'est au tour de Nixon de poser ses valises en Chine du 21 au 28 février 1972. Et son voyage va être suivi partout dans le monde. Je vous propose d'écouter un extrait du JT du 13h.
Nous allons revoir avec vous, Monsieur le Président, les images les plus significatives du séjour en Chine de Richard Nixon, avec un résumé de Maurice Ferter, qui, lui, a effectué tout le voyage à Paris, en compagnie de nos camarades techniciens, qui, chaque jour, vous ont présenté, monté ou en direct, les images de ce extraordinaire ou exceptionnel voyage.
On avait commencé froidement, un Nixon au sourire contraint, voulant bien faire en applaudissant comme on lui avait dit que ça se fait dans ces pays-là, une amabilité qu'on sentait forcée dans la poignée de main prolongée. Pourtant, tout de suite, un spectacle inimaginable et impensable quelques mois plus tôt, l'hymne national américain joué par une musique militaire chinoise, celle de l'Armée populaire de libération.
Le président américain qui passe en revue l'armée chinoise.
Et le drapeau des États-Unis dans le ciel de Pékin.
Alors, dites-moi tout, comment ça se passe, ce petit voyage de Richard en Chine ?
Comme prévu.
Bah déjà, si on peut dire, avant, il faut savoir que Mao était malade. Voilà, c'est pas ouf comme info, mais il se sentait pas bien.
Bonne
mais,
gastro. Hein,
mais pendant les jours précédant la visite, il était vraiment pas bien et il a quand même réussi à prendre sur lui pour rencontrer donc Nixon, donc c'est assez ouf.
Je crois d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que Nixon commence à essayer de parler vraiment un peu politique avec Mao Zedong, qui refuse, et apparemment il voulait plutôt parler philosophie, etc. Et il a laissé à son premier ministre Zhou Enlai les détails techniques.
Bah, dans l'ensemble, les échanges politiques se font plutôt avec son premier ministre.
Exactement.
Mais ils font après des jolies visites, ils vont voir la muraille, ils les emmènent dans des bons restos.
Ils parlent philosophie. 13e, ouais.
Et ils parlent philosophie. Mmh. Mais c'est vrai que tout ce qui va être plutôt. Donc, il y aura le sujet de Taïwan qui sera évoqué, ça sera plutôt avec le Premier ministre.
Exactement. Et donc, suite à ce voyage, on va assister à une véritable reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, dont l'acte un peu fondateur, c'est ce qu'on appelle le communiqué de Shanghai.
C'est ça. Et on peut aussi noter qu'il y a un opéra Nixon in China qui a été composé dans les années 80.
C'est vrai.
C'est vrai.
Ça, c'est génial.
C'est vrai. Et en fait, donc, de ce que j'ai compris un peu, Mao et Nixon sont vraiment aux opposés. Et au milieu, t'as Zhou Enlai qui est juste là pour le travail et qui est déprimé et qui retourne travailler à la fin. C'est tout ce que j'ai compris.
Mais très bien.
En gros,
c'est déjà un bon résumé, je trouve.
C'est un super résumé.
En gros, on peut dire que ça va permettre d'ouvrir tous les sujets. On va pouvoir parler de Taïwan, on va pouvoir parler du Vietnam. Mm-hmm. Les États-Unis ne vont pas encore reconnaître officiellement la République populaire du Chine. C'est un peu compliqué, on dit. Ils vont dire la République populaire est celle de tous les Chinois et il n'y a qu'une seule Chine dont Taïwan fait partie.
Moi, je pense
c'est
que
une forme de reconnaissance.
C'est
mais bon.
Compliqué quand tu es avéré anticommuniste à la base de dire tout de suite « Bon, finalement, on est presque potes maintenant. Ouais. » On va dire qu'on les reconnaît, c'est OK.
On est aussi dans une époque où il y a encore l'URSS et ce poids est quand même assez présent.
Mais oui. Et donc par la suite, Kissinger, il repartira une semaine en Chine pour promouvoir toute cette normalisation entre les deux pays. Et le signe que tout cela a bien fonctionné, c'est que par la suite, le nouveau président des États-Unis, Gerald Ford, se rendra en Chine en 1975 et qu'en 1979, l'ambassade américaine ouvrira officiellement ses portes à Pékin. Ça, c'est la grande histoire. Mais j'avais envie peut-être que vous reveniez sur la petite histoire, parce que quand même tout ça, c'est grâce à nos deux joueurs, nos deux pongistes,
oui.
Que sont-ils devenus ?
Glenn Cowan, il est mort. Ouais, mais en fait, je pouvais pas le faire mieux parce que vraiment, il a une vie pas terrible après ça, parce que lui, en fait, son but après, c'était d'ouvrir des écoles et des centres sportifs autour du tennis de table. Spoiler, ça a pas du tout marché. Il est rentré, il a été diagnostiqué bipolaire. Et ensuite, il s'est enfoncé comme l'ours, qui aussi s'est enfoncé dans la drogue. Et ils sont tous les deux morts en 2004. Voilà.
Tous les deux morts, ouais.
L'ours et Glenn. Ouais.
Ah oui, d'accord, l'ours et Glenn. Ah ouais, c'est triste. Et Zhuang, alors, il a.
Une meilleure carrière pour
Il a une meilleure carrière, même si il est passé par la casse-prison, lui, quand même.
Ah ouais. Oui.
Ouais, mais ça, c'est le double 6. Hein.
Ça, c'était à cause de sa montre suisse. Ouais.
En fait, il a été très proche de la révolution culturelle et très proche de la femme de Mao.
Oh.
Et à tel point qu'on lui a prêté une petite aventure. Avec la femme de Mao.
Eh oui.
Voilà. Et
pas terrible en général.
Lui était marrant. Ça, il faut éviter. En général, avec le dictateur, il ne faut pas sortir avec sa femme. C'est quand même des choses que.
Ou alors, il ne faut vraiment pas tenir à ses attributs.
Voilà, et vous faites très discret. Et même ça, c'est un peu chaud. Et donc, il va être jeté en prison. C'était quelqu'un. Il était marié, lui aussi, à une pianiste très proche de la révolution culturelle.
Comme l'ours ?
Comme l'ours. comme l'ours, tout à fait.
C'était ta vanne, hein.
Et il va être très proche de la révolution culturelle et qui dit révolution culturelle dit doute sur les dialogues avec l'Occident, etc. Et donc on va le taxer d'espionnage et il va partir en prison à cause de ça.
Et il tombe surtout à cause d'une montre suisse.
Il paraît.
C'est-à-dire,
oui.
C'est tout.
Il avait une montre au poignet, voilà. Voilà.
Et c'était pas bien vu.
C'était vraiment pas bien vu. C'était un signe extérieur de confort.
C'était une flic-flac.
Et c'est voilà. Et une flic-flac, ça passait pas.
Qu'était l'ancien nom du ping-pong si vous avez bien suivi le podcast.
Tout à fait.
Et alors, peut-être pour terminer, on peut dire quelques mots sur les relations entre ces deux superpuissances aujourd'hui. Je vous propose de faire un plan en trois parties, trois sous-parties.
Oui.
Non, mais.
Dépêche-toi parce qu'on a le conflit israélo-palestinien à 15h15 pour les 5 minutes.
Ok, je me dépêche. Non, mais finalement, on peut dire surtout que le fait marquant, on le sait tous, c'est qu'en une génération, la Chine s'est finalement complètement hissée au niveau des États-Unis.
Voire
la
dépassée.
C'est là la vraie différence, parce que sinon, les deux n'ont pas cessé de se comparer la bite, en fait, ces dernières décennies.
C'est chouette.
Mais effectivement, on a eu. Alors, ça se tient un peu la bourre. Je sais pas, c'est pas hyper clair de mon côté. Donc
non, mais il y a une manière. En gros, pour résumer, tu l'as très bien résumé, c'était très clair, c'est un concours de bits. Que ce soit dans l'espace, que ce soit lié à la 5G, que ce soit avec toutes les nouvelles technologies.
Militaire aujourd'hui, oui.
Militaire, voilà. Le PIB, voilà.
En plus, conflit sur Taïwan perdure aussi.
Il y a le conflit sur Taïwan qui perdure. Il y a Trump qui a fait pas mal les pieds dans le plat.
Ex-président Donald Trump.
On ne sait pas, ce n'est pas clair.
C'est encore flou.
Parce que, voilà, il y a eu des accusations des États-Unis sur la politique interne de la Chine, notamment sur les Ouïghours.
Qui me paraissaient peut-être un peu fondées, celles-ci, ouais, pour le coup.
Il y a quand même les Ouïghours, il y a quand même la censure, etc. La Chine répond que c'est de l'ingérence. Il y a eu le Covid. Vous savez le truc là.
Je vois pas de quoi tu parles.
De quoi tu parles?
La Covid. Et les USA critiquent la Chine sur la gestion du virus. La Chine fait de même en accusant les soldats américains de l'avoir propagé. Et en plus de ça, il y a des. On rajoute un petit peu une petite poignée de sel d'espionnage. Et on a des relations qui se sont légèrement tendues ces dernières années.
Oui,
tout à fait. Ouais.
Pour conclure, on peut dire que les relations se sont dégradées sous la présidence de Donald Trump. Et on n'est pas sûr que cette fois-ci, la petite balle blanche viendra au secours de la diplomatie. C'est l'heure de l'antidoping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Et oui.
Et c'est toi.
C'est moi qui m'y colle.
C'est toi, Younes. Alors, de quoi vas-tu nous parler?
Je vais vous parler de diplomatie, figurez-vous.
Oh.
Et concernant la diplomatie et le sport de haut niveau, en voilà un sport qui a souvent été utilisé pour sa capacité à unir. Et il nous est bien familier. Il est très populaire. C'est
la pétanque.
Le football. Et si nous avons, pour les plus vieux d'entre nous, tous souvenir d'un Iran contre les USA pendant la Coupe du Monde 94, par exemple, ou encore du USA contre la Colombie, un match bien tendu, ou encore la RDA-RFA, à chaque fois, bref, ça a été
Malherbe contre le Havre aussi.
Le Malherbe.
C'est toujours très tendu.
Exactement.
On tremble toujours pour la France à ces moments-là.
Bref, pas besoin d'invoquer un passé historique aussi lointain pour deviner que ces matchs, au vu des calendriers et des compétitions, sont parfois inévitables. Ça peut bien évidemment réchauffer des relations glaciales, mais ça peut être souvent le cas confirmé d'une vieille haine fratricide. On a souvent des matchs qui deviennent très tendus entre chiites et sunnites, par exemple, entre musulmans et juifs, entre protestants et catholiques, entre capitalistes et communistes.
Oh.
Eh oui. Dans le monde, ce n'est pas toujours les bisounours entre voisins.
Je pense que le problème vient du foot. Mais
ouais,
c'est
ça peut-être. Ouais. Mais c'est comme les vieilles histoires de famille, ça peut devenir un peu et venir pourrir le repas de Noël. Les relations ici sont très souvent tendues. Exemple, dans cet antidoping, par exemple. Alors, je vais tenter de vous raconter cette histoire d'une ambiance surréaliste dans l'un des pays les plus fermés du monde.
La France. Corée du Nord.
Bravo, Thibaut.
Merci, Thibaut.
Ouais.
Alors, on est en octobre de l'année dernière. Un match de football officiel se joue dans le cadre des qualifications du Mondial 2022. Un mondial qui n'aura pas lieu. Bon, en tout cas, on ne sait pas. C'est la théorie d'Olivier. Alors, on est à Pyongyang et je pense qu'une seule poignée d'étrangers peuvent imaginer le contexte dans cette ville. Une société sous haute surveillance avec un chef d'État surréaliste, voire lunaire, et au culte de la personnalité exacerbée, avec une police militaire lui obéissant au doigt et à l'œil. Les pleins pouvoirs dans les mains d'un seul individu. Non, ce n'est pas toi, Manu. Tu peux te détendre, je parle bien de Kim Jong-un. Voilà comment les journalistes couvrent l'événement. Pas beaucoup d'articles, des brèves plutôt, parce qu'en fait, c'était un match à huis clos. Les deux Corées se sont neutralisées dans un choc historique. 0-0, mardi à Pyongyang. Le match s'est disputé sans public et dans les conditions peu communes. Il y a eu un temps un grand mystère autour de la rencontre qui s'est tenue à huis clos. Aucune délégation étrangère et très peu de membres de la FIFA sont acceptés en observateur. Parmi eux, quand même, le président, Gianni Infantino. Il s'agissait de la première rencontre en compétition entre les deux sélections masculines des deux pays encore techniquement en guerre. Parce que, en fait, il y a eu un réchauffement, puis un refroidissement.
Puis un réchauffement, etc.
Et même si les caractères exceptionnels de la rencontre présentent une occasion de détente entre les deux nations, aucun journaliste étranger n'est autorisé à couvrir le derby de la péninsule coréenne. Jusqu'à la dernière minute, les Sud-Coréens ignoraient que le match se jouerait à huis clos dans le stade de Kim Il-sung. Voici une déclaration. Nous attendions à voir 50 000 Nord-Coréens arriver à l'ouverture des grilles, mais personne n'est venu.
Et comment les comprendre?
C'était un reportage du vice-président Cho Young-il à son retour jeudi matin à l'aéroport d'Incheon. Les grilles ne se sont jamais ouvertes. J'étais vraiment surpris, comme les joueurs et les sélectionneurs. Vraiment.
C'est incroyable.
L'idée, c'était que c'était une énorme fête et en fait, ils se sont aperçus que personne n'était là. Le dirigeant.
On dirait mes anniversaires.
Je vais dire la même chose, mais tellement nul.
Le dirigeant
on peut le redire,
a dit.
Hein. Ouais. La bamboche, c'est terminé.
Il l'avait
compris.
Alors le dirigeant a dit avoir confié son désarroi quant à cette absence de spectateurs à un homologue de la fédération nord-coréenne qui lui a répondu d'une façon complètement détachée. Peut-être qu'il ne voulait pas voir ça. C'est véridique. La star de Tottenham, Son, est-ce que vous le connaissez, Son?
Oui.
Son Heung-min, c'est un ailier de l'équipe de Tottenham.
Donc un joueur magnifique.
Un joueur magnifique, valeureux. Il déclare le match...
Chimpongiste.
Le match était très agressif et rentrer sans être blessé est un exploit, a déclaré l'ailier. Les Nord-Coréens étaient vraiment à cran. Il y avait beaucoup de sales insultes. C'est lui qui le dit. Hein. Monsieur Choi, donc, lui ne se rappelle pas avoir... déjà vu un tel niveau d'agressivité sur une pelouse. C'était comme la guerre. C'était l'un des délégués de l'entraînement. Un peu de contexte, on se souvient donc du monde d'avant et de la très médiatique rencontre entre Donald et Kim.
Oui.
Il faut voir qu'il y a deux ans, le réchauffement tombe complètement à l'eau. En 2018, la Corée du Nord reprend des distances avec l'Amérique de Trump et quitte la table des négociations autour de l'armement nucléaire. La lune de miel entre les deux pays n'est de toutes les façons que cosmétique. En tous les cas, la Corée du Nord est repartie plus que jamais dans son ancienne logique. L'ambiance est plombée depuis un moment et ce match qui avait pour lui l'occasion de mettre en lumière une magnifique opération de communication pour la FIFA, les deux nations qui se réconcilient autour des valeurs du sport, le plus médiatique au monde, eh ben c'est râpé. Comme le fromage.
Ah non.
Comme je tiens à dire que je vois les notes de Jeunesse et donc cette blague était écrite.
Voilà. Avec un fromage dessiné dessus.
Pyongyang a multiplié les essais des missiles pour protester notamment contre les manœuvres entre la Corée du Sud et les États-Unis dans la mer de Chine. Et la région est plus que jamais une poudrière. Le pays redevient une menace pour ses voisins. Dommage. Surtout quand on sait que les deux dirigeants des deux Corées avaient envisagé avec trois sommets historiques une co-organisation d'une candidature commune pour les Jeux Olympiques de 2023.
Incroyable.
Oui. Ouais, savoir que les JO de 88 avaient ouvert le Sud au monde entier, en fait. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Et donc, la Corée du Nord a promis de donner à notre délégation, avant son départ, un DVD contenant toutes les images du match. Ça, c'était clairement une promesse nord-coréenne. Après la rencontre et visiblement son ambiance délétère, le compte rendu du Daily Jung-hang est assez hallucinant. Ils disent « Nous devrions peut-être juste remercier la Corée du Nord d'avoir permis que nos joueurs de football rentrent sains et saufs.
Wow, » ah, bonne ambiance.
Ouais. Carrément.
Ouais.
Et ils ne peuvent pas faire un WeTransfer, c'est juste pas possible.
Non. Et puis les journaux les plus virulents ont carrément dit « Comment la Corée du Sud peut-elle envisager de co-organiser les Jeux Olympiques avec un homologue aussi fourbe ?» Donc autant vous dire que l'ambiance, il y a à peine un an, est complètement tendue. Donc le président Gianni Infantino, lui aussi, a dit « J'avais hâte de voir un stade plein pour ce match historique, mais j'ai été déçu de voir qu'il n'y avait aucun spectateur dans les tribunes. Nous avons été surpris de cela et par plusieurs autres points concernant notamment la retransmission en direct, donc qui était prévue, et les problèmes avec les visas des journalistes étrangers. Comme par hasard, aucun n'a été accepté. Le seul écho du match est venu de la FIFA et de la Confédération asiatique, qui était autorisée à divulguer un minimum d'informations factuelles. Donc l'équipe sud-coréenne est arrivée lundi accompagnée simplement de son sélectionneur, le portugais Paulo Bento. et de son staff. Avant de s'envoler pour Pyongyang, les Sud-Coréens avaient été priés de laisser leur téléphone portable à leur ambassade en Chine.
Ça, pour un footballeur, ça doit être dur. Hein.
Ouais. Bon, enfin, pour nous aussi, autant de cette table, ce serait dur. Hein.
Oui, mais là, c'est vraiment le cerveau qui dépose.
Et oui, diplomatie et sport ne sont pas toujours des occasions de se rapprocher, malheureusement, comme on l'a vu avec le ping-pong. Encore Gianni sur une déclaration qui dit « Pour nous, la liberté de la presse et, les expressions, et l'expression est essentielle, mais d'un autre côté, il serait naïf de penser que nous pouvons changer le monde en un instant. Quant à l'idée que les symboles peuvent faire avancer les mentalités, très certainement, mais peuvent rarement soigner les blessures profondes entre les peuples, souvent meurtries à cause des dirigeants, qui haranglent les haines, les ambitions idéologiques, qui ne cachent malheureusement que de tristes réalités, d'une soif de pouvoir parfois personnel. » Salut Manu, l'histoire ne t'oubliera pas.
Merci beaucoup Younes. Merci à tous pour ce moment passé ensemble.
Merci à toi Sarah.
Merci Sarah. Ça y est, je les ai bien dressés les petits. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. Et
bah,
puis
oui.
En attendant, entre les deux, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.
Oui. Et suivre nos copains de Culture 2000 et de 2 heures de perdu.
Et puis de 20 minutes avant la fin du monde.
Et de 20 minutes avant la fin du monde.
Et oui, merci.
Et de relire Tintin.
Surtout relire Tintin.
Surtout relire
Tintin. Merci Thibaut.
Allez, au revoir tout le monde et à la prochaine.
Allez, à bientôt. With non-figures, real niggas' fingers on nickel-plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded open fire. Now them niggas bleeding. See me in flesh and test and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes. Open and shut like doors. Is you a friend or foe? Nigga, you ain't know. They got me stretched out on death row. I seen money, but baby, I got to get more. You screaming, go to pop, and I ain't stopping till I'm well paid. Bills paid now, nigga, look what hell made. Visions of cops and sirens. Until I die, ask me why I'm a boss player getting high. And when I'm rolling by, niggas can't see me. The stairs are a million pairs of eyes, and you'll never realize. Beginning word that these square motherfuckers with nerves saying they can get with us, but picture me getting served. My own mama say I'm thugged out. My shit be popping out the record store as if it was a drug house. My lyrics bang like a creep of blood. Nigga, what? It ain't nothing but a party when we thug. And there I was, a young nigga with hump. Ain't had shit to lose. Pulling my pistol on the fools. You know the rules. D-R-E, you got me heated. My words like a penitentiary dick. Hitting bitches when it's most needed. Money and weed. Out of say and Hennessy. To my thug niggas in lockdown. Which way did he go, Joe? Which way did he go? Oh. Which way did he go? Which way did he go? You niggas made a mistake. You should have never put my rhymes with Drake. Them thug niggas have arrived and the judgment day. Hey, homie, if you feel me, tell them tricks that shot me that they missed, they ain't kill me. I can make a motherfucker shake. Rattle and roll, I'm full of liquor. Thug nigga, quit the jab at them hoes. And I can make you jealous niggas famous. Fuck around with Tupac to see how good a nigga's aim is. I'm just a
in your face, but you still can't see me.
All up in your range, but niggas.